Le Grand Dialogue.
Sigi Kafomba.
Et Dawani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafomba. Le Grand Dialogue.
Ce 24 janvier jusqu'à 15h, c'est l'incertitude au Burkina Faso. On est sans nouvelles du président Rochmar Christian Kabore. Plusieurs sources, notamment sécuritaires, rapportent qu'il aurait été arrêté, mais difficile de le confirmer à ce stade. Si ce putsch réussissait, ce serait donc le troisième dans la sous-région en l'espace de 2 ans après la Guinée et le Mali, bien évidemment. Alors pourquoi les coups d'État continuent en Afrique de l'Ouest? Nous en parlons ce soir avec nos invités, Dr Konaté Mariam Sidibé, enseignante-chercheur, Boubacar Bokoum, analyste politique, Fatoumata Maïga, spécialiste des questions de paix et sécurité. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce grand dialogue. Mesdames, messieurs, bienvenue.
Le grand dialogue.
Merci, chers invités, d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer de voir quelles sont les dernières évolutions à Ouagadougou, Burkina Faso, avec Imirana Kilumaïga.
La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a évoqué lundi, dans un communiqué, une tentative de coup d'État. Elle annonce avoir condamné cet acte d'une extrême gravité qui ne saurait être toléré au regard des dispositions réglementaires pertinentes. L'organisation tient les militaire responsable de l'intégrité physique du président Rochmar Christian Kabore. En outre, elle demande aux militaires de retourner dans les casernes, de maintenir une posture républicaine et de dialoguer avec les autorités pour résoudre les problèmes. Sur son compte Twitter, le président Kabore invite ceux qui ont pris les armes à les déposer dans l'intérêt supérieur de la nation. Il déclare que c'est par le dialogue et l'écoute que nous devons régler nos contradictions.
Alors là, c'était un papier de Imirana Kilumaïga, comme je le disais à l'entame de mon propos. On est toujours sans nouvelles du président burkinabé. Selon certaines sources, il aurait été arrêté, mais d'autres sources démentent cette affirmation. Alors, Boubacar Bokoum, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait la multiplication des coups d'État dans la sous-région?
Écoutez, cela s'explique aisément par le fait que le continent africain n'a jamais recouvré réellement sa souveraineté, son indépendance, et que économiquement, nous sommes tous dans la même posture de sous-développement. Et quand vous regardez l'emprise qu'a le capital financier mondial sur nos différents États, nos chefs d'État, effectivement, ne sont pas totalement en phase avec les différentes populations. À la réalité aujourd'hui, de répondre à la demande des citoyens, nos chefs d'État se sont montrés incapables d'apporter des réponses claires et précises à nos concitoyens. Ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé au Mali. C'est l'insécurité, c'est le manque d'emploi, c'est le manque de dynamisme de nos différentes économies. Alors, si vous êtes dans la posture de dirigeant politique et que vous êtes incapable d'apporter un tant soit peu la sécurité, de l'emploi, rapporter la dignité à vos concitoyens, forcément, vous allez être confronté à une crise.
Donc, si je comprends bien, vous vous attendiez à ces événements au Burkina.
Mais ça ne nous surprend pas dès lors que, depuis 2005, nous avons fait des études qui ont montré qu'effectivement, l'emprise du capital financier mondial sur le continent africain fait qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un nouveau partenariat. Depuis les Nations Unies créées sur les cendres de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons un postulat, un statut de règlements qui ne répondent pas à la réalité et à l'attente du continent africain.
Alors, Madame Sidibé, Docteur Konaté Mariam Sidibé, vous vous attendez à ces événements, même si pour le moment on ne peut pas confirmer le coup d'État, mais vraisemblablement nous nous acheminons vers ça. Est-ce que vous vous y attendiez?
Mais l'exercice est un peu différent en fait quand il s'agit d'un enseignant-chercheur, parce que nous, on évite souvent de commenter l'actualité, qu'on laisse librement aux journalistes, mais nous, on a une analyse qui se construit beaucoup plus en profondeur. Et là, on se rendra compte que les coups d'État ne sont pas nouveaux en soi dans l'histoire postcoloniale de nos États. Nos États ont connu plusieurs coups d'État de la fin des années 60 et toute la décennie des années 70, même si la vague de démocratisation au début des années 90, on connaît un semblant d'accalmie, de diminution des coups d'État, on se rend compte que ben voilà, depuis quelques années, ça revient en force. Et là, Pour l'instant, nous n'avons pas de confirmation pour le cas précis du Burkina. Eh bien, je rejoins M. Bokoum en disant que finalement, c'est le même scénario qui se dessine quasiment au Mali, même si pour l'instant, c'est le flou. On n'a pas de communiqué officiel jusque-là. On n'a pas d'éléments tangibles pour parler de coup d'État, de démission ou de toute autre ingénierie des coups d'État qui pourraient se dessiner. Mais une chose est sûre, c'est que nous avons une dynamique au Sahel où l'effet domino est réel. On ne peut pas contenir une crise dans un seul pays. Une crise au Mali a des ramifications sur tous les pays qui sont voisins au Mali. Ces crises aussi interviennent souvent dans des contextes d'insécurité aiguë. Nous avons des populations qui ont développé une sorte de résilience au fur des années parce que l'État a été quasi absent et incapable d'offrir le service de base à la population. Et la population s'est construite dans cette résilience. Mais là où la population ne peut plus vivre dans cette condition, c'est quand le déterminant sécuritaire s'invite et vient l'élément majeur d'analyse.
Donc, selon vous,
c'est déterminant sécuritaire, oui, cette question d'insécurité est au cœur de toutes ces dynamiques, est au cœur de toutes ces problématiques. Quand l'État ne peut plus assurer sa sécurité à l'intérieur ou à l'extérieur de ses frontières, et quand cet État n'est plus seul détenteur du monopole de la violence au sein de son territoire, là, nous assistons à des vagues de crise des plus profondes avec des déplacements massifs, de réfugiés, de déplacés. Et tout ceci peuvent contribuer à expliquer la situation actuelle qui se passe au Burkina, qui n'est pas très différente de celle qui se passe au Mali, et comme cela peut se passer dans d'autres pays du Sahel.
D'accord. Madame Fatoumata Maïga, elle a dit, nous avons vu qu'au Burkina, comme au Mali il y a 2 ans, c'est une contestation, en tout cas, même si ça ne vaut pas l'ampleur du Mali, il y a en tout cas une contestation au niveau du Burkina. Qui s'est déroulé depuis quelques semaines, d'abord avant que les militaires aussi entrent dans la danse. Est-ce qu'aujourd'hui on peut expliquer ces changements de régime, tous ces mouvements par l'insécurité dans la région?
Merci Monsieur Gadiogo de nous avoir permis de nous exprimer sur les ruptures institutionnelles que nos différents États de le Sahel sont en train de vivre, et particulièrement le cas du Burkina ce matin, qui, pour le moment, elle est confuse. Elle est confuse parce que nous n'avons aucun contact avec le Burkina. Tout ce que nous apprenons, c'est par presse interposée. Moi, j'ai perdu le contact avec Ouagadougou depuis 1h45 du matin. Et d'abord, parce que en tant que société civile, nous sommes sur des réseaux où nous partageons tout ce qui se passe à l'intérieur de nos pays. Mais nous avons vraiment de l'inquiétude, suffisamment d'inquiétude par rapport au Sahel et même de la sous-région tout court. Je voudrais juste dire que, en tant qu'actrice qui travaille sur les questions de paix et sécurité, et dont l'outil principal c'est le traité de la CEDEAO dont personne ne parle, nous avons été surpris de voir le traitement qu'a fait les chefs d'État du traité dans la gestion de la crise institutionnelle du Mali. Notre inquiétude est partie de là. Parce qu'on s'est posé la question, au moment où les chefs d'État de la CEDEAO étaient au Mali en 2021, qu'ont-ils fait du mécanisme? Parce que nulle part au Mali, ils ne se sont référés sur ces traités pour gérer la crise. Ce qui explique le coup d'État du Mali.
D'accord. Donc pour vous, l'insécurité n'est pas la seule explication.
Pas seulement. Parce qu'en réalité, les chefs d'État ouest-africains se sont auto-affaiblis en gérant la crise du Mali.
Comment ça, auto-affaiblis?
Oui, ils se sont auto-affaiblis. Quand vous ne respectez pas les contenus d'un texte, ils sont rentrés en tout cas, jusqu'à preuve de contraire, on se posait la question: qu'est-ce qu'ils voulaient? Pour qui ils travaillaient pour gérer la crise? Le mécanisme n'avait pas été respecté au Mali. Ça, il faut clairement le dire. Je vais vous prendre seulement un exemple. quand les chefs d'État venaient pour rencontrer les acteurs sociaux, la classe politique, le communiqué d'invitation du représentant de la CEDEAO, moi, m'a déjà fait surgir. Parce que le président de la République avait été convié à l'hôtel Sheraton en même temps que les partis politiques, en même temps que... Et je me posais la question, est-ce que le président à l'époque était considéré comme un président ou bien un simple acteur? C'était la première erreur très grave qu'on a permis au chef d'État. D'accord. Donc aujourd'hui, en prenant des sanctions outrepassées, on s'en prend des sanctions outrepassées.
D'accord, nous allons venir avec par rapport aux sanctions.
Si on ne prend pas les choses à la racine, mm-hmm. je pense que les Maliens qui sont dans le déni vont continuer à s'agiter, à taper sur tous les points sans jamais avoir de réponse mm-hmm. pour ce que nous vivons. Parce que il y a une ou deux semaines, on se posait la question si les opposants n'allaient pas profiter de la situation, greffer à l'insécurité. Parce que moi, je ne crois pas que ce soit l'insécurité qui est le facteur qui a précipité cela.
D'accord,
mais
d'accord.
C'est un des facteurs parmi tant d'autres.
Ok, Madame Maïga n'est pas tout à fait d'accord. Bon, c'est vrai que l'insécurité peut être en partie une explication, mais elle n'est pas la seule explication. Est-ce qu'aujourd'hui, la fragilité, nous n'avons pas des institutions fragiles dans nos États au Sahel?
Oui, écoutez, nous avons toujours eu des institutions fragiles, à commencer d'abord par des économies fragiles. Parce qu'un État, d'abord, c'est son économie. À l'économie, vous adossez automatiquement l'armée, qui est la première puissance qui garantisse la sécurité financière d'un État. Alors, donc, le postulat même de la défense d'un État commence par ça. Donc, si vous êtes fragilisé économiquement, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que le Mali est cité hein, pour être troisième ou, je ne sais pas, quatrième pays producteur d'or, indice de développement humain pratiquement nul, et pourtant, l'indicateur est à deux vitesses, 6-7% de croissance. Et une croissance pour qui? Pour juste le marché international qui est acté par le FMI et la Banque mondiale avec une main des multinationales derrière. Donc si vous n'avez pas la richesse pour vous, alors que vous êtes propriétaire, suivant le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, vous êtes le propriétaire des ressources. Alors vous n'avez pas la possibilité d'acter sur vos ressources, forcément vous ne pouvez pas contrôler votre propre sécurité. Donc de ce fait, déjà, nous sommes des États fragilisés sur le plan économique et on a dégarni nos armées par le principe du réajustement structurel qui a été imposé par le FMI et la Banque mondiale dans un mécanisme dans lequel nous avons dégarni notre armée, nous avons dégarni l'école, nous avons dégarni la fonction publique, nous avons dégarni les mécanismes économiques. Maintenant, le principe de l'UMOA et de la CEDEAO, encore, ont profité à d'autres. Parce que nos espaces sont devenus des marchés, notamment la France. Il ne faut pas s'en cacher. Le problème du franc CFA. Aujourd'hui, vous prenez le coton Borchamps à 200 francs CFA. C'est la France, à travers la CFDT, la Compagnie française de développement textile, et ses intermédiaires qui le vendent sur le marché mondial à 1000 francs ou à 1500 francs. Et où part la différence? Vous prenez le CFA, qui est une monnaie coloniale, il faut aussi l'appeler comme tel, dans lequel vous prenez 1000 francs CFA, vous arrivez à Paris, vous n'êtes pas capable de vous payer une bouteille d'eau. Vous amenez à la banque française, on ne vous fait pas l'échange, parce que simplement, vous n'avez pas de monnaie. Donc un pays qui n'est pas adossé, qui n'a pas l'indépendance économique, financière et monétaire, ne peut pas prétendre être un État souverain. Donc dès lors que nous avons renoncé à nos souverainetés dans les traités, dans les accords qui nous ont été imposés par les réalités de l'époque, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le mécanisme d'insécurité, que ce soit alimentaire, financière ou militaire, qui s'impose à notre continent aujourd'hui, n'est pas un problème que malien, il est continental.
Mais c'est pas plutôt un problème de gouvernance, parce que quand on a vu les manifestations qui a eu lieu, on parle de corruption au niveau de l'armée, l'armée mal équipée.
Oui, vous,
est-ce
vous,
qu'aujourd'hui
vous dites,
tout
vous dites
est lié
exactement
à...
la même chose, parce que pour avoir la bonne gouvernance, moi je veux bien payer mes fonctionnaires, mais avec quels moyens je le finance? Si c'est le FMI qui doit me dicter le salaire que je dois imposer à des fonctionnaires, écoutez, je ne peux pas bien gouverner. Si c'est le mécanisme Fonds monétaire international qui se met derrière les multinationales pour mettre la pression pour que je cède mes terres, que je sois exproprié, écoutez, je deviens un chef d'État corrompu. Et aujourd'hui, le postulat, c'est de dire que le peuple refuse maintenant que les chefs d'État continuent à jouer ce jeu. Donc, le postulat qui consiste à dire que les chefs d'État, pour nous, sont à la solde des puissances, Il faut que ce paradigme change, que les chefs d'État commencent à travailler pour leur peuple. Et quand vous regardez ce qui s'est passé au Mali, mais les Burkinabés n'ont pas attendu aujourd'hui pour sortir et être solidaires par rapport au Mali. Parce que tous les peuples africains connaissent exactement le même problème. Donc du coup, cet élan du panafricanisme qui se réveille aujourd'hui veut dire simplement dire une seule chose. Nous voulons être économiquement libres, nous voulons être politiquement libres, nous voulons assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Et ça, c'est le message que la communauté internationale doit pouvoir être capable de capter.
Docteur Konaté et Fatoumata, Mariam Sidibé plus tôt, est-ce qu'aujourd'hui la fragilité de nos institutions, on peut l'attribuer, est-ce que les partenaires internationaux ont une part de responsabilité dans cette fragilité de nos institutions? Est-ce que nous-mêmes nous sommes
J'aime bien penser à un de nos contemporains dont je ne dirai pas le nom, qui dit toujours que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts mais d'institutions fortes. Et cette phrase est plus que jamais d'actualité. Il est incontestable que nous sommes dans un état fragile au Mali et que cette fragilité n'est pas inhérente seulement au cas du Mali, mais à tous les pays d'Afrique subsaharienne en particulier. Et jusqu'en 2012, qu'on assiste à un quasi-effondrement de l'État au Mali, le Mali n'était pas officiellement classé parmi les États fragiles. Pourquoi ? Parce qu'on avait une communauté internationale qui voyait une démocratie de façade qui était loin de la réalité de l'État et de l'État tel que vécu par les Maliens, qui qualifiaient ce Mali d'État modèle exemplaire, le bon élève de la démocratie.
Jusqu'en 2012, que la démocratie telle qu'elle est jugée par les puissances occidentales n'est pas celle qu'il faut dans nos pays.
Il y a un décalage entre la perception de l'État, le besoin de l'État tel qu'est traduit par les nationaux et tel que pensé par cette communauté internationale qui, à tort, pense avoir la bonne lecture à la place du citoyen lambda. Personne n'est mieux placé que le Malien pour analyser, évaluer la problématique malienne de par sa connaissance des réalités socio-anthropologiques et des réalités culturelles du Mali. Les modèles préétablis de gestion de conflits qu'on veut calquer à tout type de conflit posent leurs limites et montrent les limites des plus flagrantes. Peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'en parler, mais les accords de paix signés dans les pays en dehors du Mali présentent très peu de valeur finalement aux yeux des Maliens. Par rapport aux accords qui sont traités dans les lieux au cœur des conflits par des chefs locaux auxquels cette population se reconnaît. Donc c'est ce décalage entre la perception, le besoin de l'État tel que pensé par les citoyens maliens et tel que pensé à tort par cette communauté internationale qui pense tenir la bonne lanterne à la place du citoyen. Alors, et je pense que les contestations actuelles mettent à nu ce décalage.
Alors, Madame Maïga, êtes-vous d'accord qu'il y a un décalage entre la réalité d'ici, ce que nous vivons, et ce que les partenaires internationaux pensent?
Absolument que oui. Absolument que oui. Il y a vraiment à revoir tout le système de gouvernance institutionnelle qui nous a imposé, c'est comme ça que je veux voir les choses. Vous savez, même moi je suis comme ça, enfant de Gao qui aime bien faire l'humour même dans la douleur. Ces temps-ci, j'ai tendance à dire aux gens, mais écoutez, est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre tous ces responsables du mouvement démocratique à la retraite, même leur donner des pensions de retraités pour qu'on puisse refonder, revoir un contrat social avec le peuple.
Parce vous pensez qu'ils sont le problème?
Absolument qu'ils sont le problème. Moi, je vais vous dire une chose. Quand le régime du général Moussa tombait, j'étais jeune stagiaire au gouvernorat et c'est là qu'il venait pour demander les autorisations de marche. Curieuse que je suis, je me rappelle encore, c'est Maître Muntaga, c'est mon grand frère Soumeilou qui venait chercher les demandes d'autorisation et c'était dans mon bureau. Et chaque fois, je leur posais la question. Mais le jour où il y aura l'ouverture démocratique, qu'est-ce que vous allez faire d'abord? Est-ce que vous allez former, conscientiser le peuple à la démocratie, aux valeurs démocratiques avant de faire l'ouverture démocratique. Peut-être qu'il me voyait très jeune, moins de 30 ans, qui racontait sa vie. Mais aujourd'hui, l'histoire nous rattrape. On a embarqué le peuple malien dans une voie, ou bien le peuple africain, dans une voie qui leur est tout à fait étranger, alors que nos peuples ont leur vie démocratique. Nous avons notre vie démocratique. Et surtout un peuple comme le Mali, qui a été traversé par différents empires. Je veux bien entendre certains qui disent que oui, ça a été toujours un système de tyrannie. Avec... Non, mais non. L'empereur du Mandingue avait sa cour, les gens étaient consultés. L'empereur Songhai avait sa cour avec le Charamoja. Et quand vous parlez, on vous dit que même les minorités, la part des minorités était là et les femmes avaient leurs droits. Mais ce n'est plus ça. D'autres parlent à la place d'autres. Et d'aucuns décident à la place de certains. Vous avez parlé des accords. Moi, j'ai eu la chance d'être, en tout cas, parmi ceux qui ont travaillé sur l'accord. Mais nous avons vu comment est-ce que les choses se sont passées. Aussi bien qu'on a amené les représentants des communautés, mais voyez combien de partenaires sont signataires.
D'accord. Boubacar Boukoum, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les peuples de la sous-région en Afrique de l'Ouest quand même sont prêts pour cette forme de démocratie-là? Pourquoi les régimes démocratiques peinent à réussir? On a vu en Guinée, après un régime militaire, il y a eu en tout cas un président démocratiquement élu qui a été renversé. Au Mali, on a réussi une alternance. Après ça, un coup d'État. Nous voyons la même chose au Burkina. Après, voilà, plusieurs années de régime militaire, un régime démocratique renversé encore. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts pour cette démocratie-là?
Nous ne sommes pas pour la démocratie du mensonge, mais nous sommes prêts pour la démocratie véridique.
La démocratie du mensonge, c'est quoi?
C'est exactement la démocratie occidentale qui est de l'usurpation, qui est le substitut du pouvoir du peuple, comme madame vient de le dire. D'autres parlent au nom de X ou Y. Quand vous prenez la configuration du Mali...
Mais est-ce qu'on ne prend pas trop l'Occident comme bouquet émissaire? Est-ce que ce n'est pas
nos dirigeants? Nous sommes responsables totalement de notre déchéance. C'est-à-dire ce que je veux juste dire. Nous, dans notre postulat, qu'est-ce que nous essayons d'analyser? Au lieu de voir les conséquences, voyons les origines lointaines. Parce que ces chefs d'État qu'on dit corrompus, malpropres, pourquoi ils l'ont été? Quel est le mécanisme qui les a amenés à ce niveau? Donc il faut couper le problème à sa racine. Et quand vous remontez plus loin, vous partez jusqu'à 1496 pour comprendre que c'est à cette époque que nous avons eu le contact avec l'Afrique, avec une prédominance de la colonisation. Et cette colonisation, elle ne s'est pas arrêtée. Elle continue sous d'autres formes, plus pernicieuses, plus vicieuses et plus intelligentes. Donc aujourd'hui, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes aujourd'hui en plein pied dans la Troisième Guerre mondiale, qui est une guerre économique pernicieuse encore une fois de plus. Alors, donc si nous ne parvenons pas à faire une analyse objectif pour comprendre d'où est-ce que nous tirons tous nos problèmes, cette déviation comportementale, elle vient d'où? Quand tu regardes culturellement, madame l'a tantôt dit, nous avons à l'époque des cadrages idéologiques, comportementaux qui faisaient qu'effectivement, à un moment donné, tu ne peux pas sortir du cadre parce que chacun avait une mission définie. Mais quand on a sorti tout le modèle traditionnel et qu'on a imposé un autre modèle, donc on ne se retrouvait plus. Aujourd'hui, pour qu'on parle de monnaie qui fasse autant de mal, c'est parce que le modèle occidental est venu se greffer. Donc, pour faire court, c'est de dire juste que le vrai problème de notre corruption sans sanction à la réalité se cache derrière un modèle démocratique qui n'est pas réellement démocratique.
D'accord.
Donc, si nous partons de ce postulat, nous allons comprendre aisément qu'il ne s'agit pas de dédouaner nos dirigeants, parce que le problème de leadership est hyper important. Mais nous avons demandé que dans les systèmes de normes de bonne gouvernance, il faut un leadership inclusif, partagé. Donc, si vous ne partagez pas, vous n'êtes pas capable de déléguer vos pouvoirs, c'est qu'il est sûr que vous allez échouer. Quand vous regardez nos empires, c'était ça. Kankou Moussa, il n'a pas gouverné en étant lui-même partout. Il avait des gens à qui il déléguait un certain nombre de pouvoirs. Et chaque ère géographique, chaque ère historique avait une forme de gouvernance, mais gérée par l'architecture supra. Mais alors, quand vous amenez un État semblant unitaire, qui impose son dictat à l'ensemble des communautés, sans tenir compte de leurs valeurs culturelles, sociales, mais
évidemment que les gens ne se retrouvent pas dans le modèle de gouvernance soi-disant démocratique. Donc nous avons appelé à une rupture, ce qui est en train de se faire d'ailleurs, parce que les différentes transitions que l'Afrique est en train de connaître aujourd'hui, il s'agit de quelles transitions ? Il s'agit de l'ère mitterrandienne de la démocratie, celle de 1990-91 que madame était en train de décrire tout à l'heure, vers un nouvel espoir d'ère démocratique. D'accord. Nous voulons bien une démocratie, mais il faut qu'elle soit vraie. D'accord. Donc la transition entre ces deux modèles, ça, nous sommes en train de faire des soubresauts, nous sommes en train de chercher notre marque à partir du printemps arabe déjà. On a amorcé le printemps africain qui n'a pas pu voir le jour parce que les Occidentaux ont tout fait pour l'étouffer. Le printemps malien a commencé déjà en 2012 avec le coup d'état de Haya. On l'a freiné en amenant le modèle Ibeka qui aujourd'hui aussi a montré ses limites et on est dans ce qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc le printemps malien est en marche.
D'accord. Madame Docteur Konaté, êtes-vous d'accord que la démocratie que nous avons, en tout cas, nous estimons que nous avons opté pour ça librement. Si on dit aujourd'hui qu'elle nous a été imposée, est-ce que, quelque part, c'est pas exagéré ?
Là où je suis encore bien dans ma situation qui est assez confortable, c'est qu'en tant qu'enseignant-chercheur, nous avons la chance d'être en contact avec les jeunes. Nous avons la chance de pouvoir expliquer à cette jeunesse les enjeux réels que se posent actuellement, non pas seulement au Mali, mais à toute la zone du Sahel, où on assiste fortement à un changement de paradigme. Il y a une renégociation qui se fait. Et cette renégociation, elle a dit tantôt, madame, qu'il faut renégocier le contrat social. Monsieur Bokoum dit l'État central montre ses limites dans la gouvernance. L'on se rend compte de la faiblesse de l'État central qui propose une offre de gouvernance qui ne permet pas de vivre ensemble actuellement au Mali, qu'il faut renégocier. Et cette renégociation va au-delà du simple cas du national. La relation avec l'Occident se renégocie. Ce n'est plus un tabou. Et cette renégociation passe par cette grogne sociale tenue par cette jeunesse. Si on peut négocier avec certains chefs d'État qui sont l'élite, qui ne sont pas représentatifs de l'intégralité de la population, parce que beaucoup sont élus sous fond de contestation, nous avons une jeunesse consciente dans la rue qui ne peut être ni canalisée par un État ni par une structure internationale. Si on peut avoir un chef de file de l'opposition qui peut être mené à la baguette, personne ne détient le pouvoir de la rue. C'est pour ça, moi, j'aime bien caricaturer en disant que finalement, c'est une démocratie qui se joue dans la rue, par la rue et pour la rue et tenue par les jeunes. Alors, moi, j'ai la chance, en tant qu'ancien chercheur, d'assister à ça.
Alors, justement, vous parliez de jeunes. On a vu, c'était samedi dernier, où il y a eu des mobilisations un peu partout dans le monde pour soutenir le Mali contre les sanctions de la CEDEAO. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a ces événements qui se déroulent au Burkina. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un effet de contagion dans la région ?
L'effet domino est réel au Sahel, non pas seulement pour ce cas précis. La crise libyenne a eu des ramifications sur tout le Sahel. La crise malienne a des conséquences sur tous les pays voisins du Mali, sachant que nous avons 7 frontières et combien de kilomètres de frontières. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité aussi, c'est quoi ? C'est que le développement de l'outil de la communication fait que rien n'est tabou. Les enjeux sont réels. Il y a une conscience collective qui est là. Il y a une volonté qui est là. Mais toujours est-il que, finalement, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on fera de cet élan. Serait-il un feu de paille qui va brûler, qui va s'éteindre au bout de 2-3 jours de manifestation? Je ne pense pas, en fait. C'est dire que, finalement, le problème malien peut être le problème du Burkina, peut être le problème du Niger. Le Niger, aujourd'hui, les frontières sont fermées, mais sachant qu'une partie du commerce des régions du nord du Mali sont tenues par les commerçants du Niger, sachant que près de la moitié de la consommation du riz du Niger est produite par l'office du Niger du Mali, sachant que le Mali est un des plus gros partenaires des ports autonomes de Dakar et d'Abidjan. Donc finalement, on se rend compte que cette sanction est là, mais les voisins payent plus le prix de la sanction que le Mali. Il y a une contestation de la CEDEAO qui perd la légitimité aux yeux de cette population qui ne trouve plus du réconfort vers cette CEDEAO, qui se trouve non pas parce qu'elle n'a pas les bons outils, comme Madame le dit, mais c'est de l'usage qu'on en fait de ces outils. Et cette contestation va au-delà du simple outil de la CEDEAO, mais va aussi toucher l'ensemble des partenaires internationaux du Mali. Et comme je l'ai dit, nous sommes en phase de renégociation où on va devoir redéfinir l'offre de gouvernance, on va devoir redéfinir l'offre de coopération. Et cette redéfinition ne peut se jouer sans l'intégralité des Maliens. C'est pour ça que j'aime bien quand ils parlent d'inclusion, mais aussi des solutions endogènes. Parce que pour moi, tant que ce n'est pas endogène, ça ne sert à rien. Et j'aime bien le répéter souvent aussi, que la marmite bout du bas vers le haut. Elle cuisine avec, comme moi. Quand on pose une marmite, l'ébullition commence toujours du bas. Et cette ébullition, ça commence par le peuple et ça va monter. Et je suis sûre que les retombées seront des meilleures pour nous. Moi, je suis très optimiste.
D'accord. Madame Maïga, aujourd'hui, nous voyons que le Burkina, c'est un pays voisin, un pays frontalier. Est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences de cette situation sur le Mali ou bien ça pourrait être beaucoup plutôt avantageux pour le Mali et pour la région aussi?
Merci bien. En tant qu'actrice de paix, analyste des indicateurs de crise, je suis confuse, hein, confuse et inquiète. Je suis confuse et inquiète parce que une autre instabilité institutionnelle greffée à la crise institutionnelle et sécuritaire du Mali et du Sahel pour n'importe quel acteur, n'importe quel citoyen conscient qui est capable d'analyser les choses, il faut être inquiet. Il faut être inquiet parce que le Sahel est devenu le ventre mou. Moi, je ne sais même pas est-ce que c'est des terroristes, est-ce que c'est des extrémistes, qui ils sont. En tout cas, des bandits de la terre. Des bandits de la terre, parce qu'en réalité, ceux qui sont en train de commettre ces crimes, l'islam est leur chapeau, mais il faut être sur le terrain pour voir qui ils sont.
D'accord. Donc, il faut s'attendre à une détérioration de la situation sécuritaire dans la région.
C'est une des raisons qui fait que moi, j'ai toujours accusé l'Occident d'avoir mis le Sahel dans cette situation. Pour la simple raison que pour contrôler les ressources de la Libye, ils ont fait partir Kadhafi, mais en créant le chaos, mais le chaos pour le Sahel. Sauf qu'ils ne seront pas épargnés. Parce que leur objectif, c'était d'éliminer Kadhafi, mais est-ce que les conséquences, ils en ont pensé pour... Alors, nous le vivons. Nous vivons autre situation d'insécurité dans les autres pays. Les gens pensent que l'Algérie est stable. L'Algérie n'est pas stable. C'est juste une grande puissance qui ne parle pas beaucoup. Le Soudan n'est pas stable. L'Égypte n'est pas stable. L'Érythrée n'est pas stable, l'Éthiopie, voilà des pays. Et quand vous avez souci de tout ça, vous prenez votre globe et puis vous mettez à dire mais c'est tout près du Mali.
D'accord. Donc ça va pas arranger.
Permettez que je réagisse rapidement.
Allez-y.
Parce que moi j'aimerais transcender, si vous le passez moi du terme, de jeter toute la pierre à l'Occident, de dépasser considération où c'est toujours l'autre qui est responsable de la faute. En commençant la discussion, là, M. Bokoum avait commencé à dire qu'il est surtout important de voir le mal en interne. Les questions de corruption qui sont au cœur de toute cette dynamique conflictuelle actuellement, je m'excuse, mais on ne peut pas indexer l'Occident de cette corruption. Les questions de mauvaise gestion des ressources humaines, que ce soit de l'armée, mais des ressources humaines de la fonction publique, on ne peut pas accuser l'Occident seulement, uniquement. On ne peut pas accuser l'Occident de ça. Et les questions aussi de mauvaise gestion ou d'inégalité dans l'accès des ressources naturelles au sein des mêmes États qui alimentent les dynamiques conflictuelles et les effets du changement climatique dont on ne veut pas parler, qui diminuent les points de pâturage entre éleveurs et agriculteurs. Il y a un ensemble de paradigmes qu'on ne peut pas imputée totalement à l'Occident. La colonisation est une réalité dont nous avons subi de graves conséquences. On continue à subir de graves conséquences. Mais au-delà de ça, plusieurs autres facteurs qu'on peut imputer aux dirigeants et aux citoyens sont aussi à tenir en compte.
Oui, s'il vous plaît, moi, je voudrais réagir sur ce point. Madame Konaté, je suis entièrement d'accord avec vous parce que il va falloir qu'on arrête d'être des victimes. Clairement que ce pays-là, en tout cas le Mali, n'a pas été bien gouverné. Le Mali n'a pas été bien gouverné parce que si nous voyons la classe politique, le niveau de vie aujourd'hui, hier et avant-hier, et la manière dont ils ont fermé les yeux sur les valeurs sur lesquelles les Maliens se retrouvent. Et je reviens là-dessus. Aujourd'hui, c'est à partir de Bamako qu'on calque tout. On oublie qu'il y a une manière de gérer et de comprendre la gestion.
D'accord. Donc tout n'est pas de la faute, de la responsabilité de l'Occident. On est d'accord sur
mais
ça.
Mais pas du tout.
On est d'accord sur
pas
ça.
Pas du tout.
Okay.
Et d'ailleurs, même pour faire tomber les régimes, mm-hmm. les opposants
d'accord.
sont les amis de l'Occident jusqu'au jour où mm-hmm. quelqu'un d'autre utilise l'Occident pour les faire tomber.
Ok, alors Boubacar, on a vu que le Mali qui est sous sanction de la CEDEAO suite à, en tout cas, un coup d'État, une transition. Aujourd'hui, le Burkina aussi qui est sur le point de connaître un coup d'État. Est-ce qu'aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas dépassée par les événements dans la sous-région?
Écoutez, je vais revenir un peu en arrière pour quand même redresser un certain nombre de choses, parce que en réalité, quand il s'agit de faire l'analyse, il ne s'agit pas de justifier un mauvais comportement ou de la classe politique qui est quand même échouée. Il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit juste d'analyser les causes, les erreurs qu'il ne faut plus répéter et quitter un certain nombre de postulats vis-à-vis de l'emprise. Personne ne peut nier aujourd'hui l'emprise du capital sur nos économies. Ça, c'est une triste réalité. Maintenant, pour revenir à votre question, alors la CEDEAO est une machine obsolète. Le protocole additionnel de la CEDEAO est dépassé depuis le début du printemps arabe. Ils n'ont jamais revisité le logiciel. Ensuite, on se trouve face à une société qui a une demande auquel les chefs d'État ne répondent pas. Alors, quand vous prenez le mécanisme additionnel et le protocole, vous allez comprendre qu'ils ne répondent plus parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de contrôler leur père et leur dire qu'il faut s'inscrire dans la bonne gouvernance. Ça, c'est le premier acte. Donc, on ne peut pas ne pas condamner la cause et on veut en condamner la conséquence. Parce que la suite logique de la mauvaise gouvernance, c'est la rupture et la déstabilisation d'une institution. Donc aujourd'hui, la CEDEAO, bien avant ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, et ça ne va pas s'arrêter au Burkina, parce que c'est une fenêtre de tir qui est offerte à l'Afrique aujourd'hui pour sortir du modèle colonial, néocolonial.
D'accord. Mais comment elle doit s'y prendre maintenant? Comment elle doit gérer cette situation pour que, voilà, on...
La CEDEAO, on a toujours dit à la CEDEAO d'être dans l'optique de l'intelligence, de la collaboration avec les peuples africains, d'être à l'écoute. Il ne s'agit pas d'apporter des sanctions. Aujourd'hui, vous allez demander à un putschiste de fermer la porte à un autre putschiste. Ce n'est pas possible. L'exemple, le prix élémentaire, c'est la Guinée qui n'a pas pu ou n'a pas voulu fermer sa frontière avec le Mali. Parce que, effectivement, le cheval de Troie, c'était de mettre le Mali à genoux. Ensuite, on va mettre la Guinée à genoux. Demain, ce serait le Burkina Faso. Donc, si tous ces éléments, ils ont compris que l'Afrique est unique, l'Afrique est unie, et cette unité africaine, nous devrons la réaliser. Alors, aujourd'hui, la CEDEAO doit comprendre qu'elle doit disparaître au profit d'une nouvelle CEDEAO. L'Union monétaire africaine aujourd'hui a montré ses limites parce qu'ils ont été incapables d'acter l'écho qui était la réflexion de la monnaie unique africaine. Ils se sont laissés manipuler par Alassane Dramane Ouattara et Macron pour arriver à un système où nous sommes bloqués aujourd'hui par rapport à cette monnaie unique africaine.
D'accord.
Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se passer va permettre au Mali d'être celui qui amorce le processus de libération du continent et celui qui va amorcer effectivement le processus de la création de la monnaie unique africaine à partir de nos ressources minières.
D'accord. Comment la CEDEAO doit-elle s'y prendre maintenant, Madame Docteur Konaté, pour qu'il n'y ait pas d'autres événements, d'autres coups d'État dans la sous-région? Elle a déjà plusieurs fers au feu. Est-ce qu'aujourd'hui...
Elle a perdu en fait sa légitimité auprès des populations.
Est-ce qu'elle est déconnectée?
Elle ne croit plus, en fait, elle ne croit plus. La population ne croit plus à la CEDEAO. Elle la pense plus légitime pour trancher des crises parce qu'elle n'est pas jugée impartiale. Et le modèle, c'est que tout le temps qu'il y a une rupture démocratique, personne ne souhaite un coup d'État parce que le coup d'État, c'est la phase suprême à une rupture, d'une rupture à un processus démocratique classique. Et là, le schéma classique, c'est de retour à l'ordre constitutionnel, stabiliser rapidement et organiser les élections, quelles que soient les conditions. Le Mali n'est pas à sa première transition. Nous avons connu d'autres transitions. Il est nécessaire que ce ne soit pas cette CEDEAO qui dicte la sortie des crises au Mali, qui donne le temps, sachant bien qu'on reconnaît que nous sommes signataires de tous les actes de cette CEDEAO, mais qu'on laisse le temps aux Maliens de juger eux-mêmes du timing à donner aux choses pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé. À quoi ont servi les transitions précédentes? À aller vers des élections très rapides, et ces élections très rapides ont remis à nouveau les mêmes crises. Et cette recrudescence des crises amène à de nouveaux coups d'État, en fait. Donc, quelque part, elle a besoin d'être réformatée et de prendre en compte beaucoup plus la réalité du terrain et de ne pas toujours avoir ce modèle préétabli qu'elle veut calquer à tout type de conflit, parce que quelque part, quoi qu'on le dise, certains axes vont se dessiner. Certains axes, l'axe Conakry, Bamako, Ouaga se dessinent, et pourquoi pas ne pas continuer jusqu'à N'Djamena. Absolument. Quoi qu'on dise, ces axes-là existent aujourd'hui. Le Burkina,
c'est la route de l'or.
Je ne sais pas qu'est-ce qui va se confirmer à Ouaga. Et si ça se confirme, le même scénario malien à Ouaga, ben je pense que c'est l'axe Bamako-Ouaga qui se dessine en priorité, et ça continue jusqu'à Conakry. Et quelque part, les sanctions seront caduques, en d'autres termes. Et elles n'auront pas d'effet, ces sanctions-là. Si la Guinée n'adhère jamais fermer ses frontières au Mali, ben le Burkina va rouvrir. Et le poids économique de ces sanctions sur les voisins est aussi important que ça l'est sur nous, Maliens, en fait. Et ils ne tiendront pas autant que nous. Donc, quelque part, cette CEDEAO, elle a besoin de revoir sa carte, de redevenir la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État.
Alors, une CEDEAO des peuples au lieu d'une CEDEAO des chefs d'État, est-ce que vous pensez également que la CEDEAO ne prend pas en compte les aspirations des peuples de la sous-région?
Je pense
en tout cas, elle défend la démocratie.
Je ne fais pas partie de ceux-là qui dénoncent les textes. Hein. C'est l'application des textes qui nous a mis...
Ouais, mais c'est ce qu'elle demande. C'est
justement,
ce que la CEDEAO demande pour le cas du Mali.
C'est l'application des textes. Et cette application des textes, elle n'a pas été décriée par les populations. Aujourd'hui, la question de la libre circulation des personnes et des biens s'est posée il y a extrêmement très longtemps. Vous ne pouvez pas sortir du Mali ici de Bamako pour arriver à la frontière sans payer 1000 francs à tous les postes. Et quand vous rentrez de l'autre côté, c'est la même chose. Et moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais arrivée à l'aéroport de Accra où on m'a demandé mon visa. Moi, population de l'espace CEDEAO, il a fallu que je comprenne les choses. Et ce que je regrette, c'est le fait que quelque part et quelquefois, les textes ont été foulés aux pieds par les mêmes chefs d'État. Aujourd'hui, quand on prend le cas des sanctions du Mali, il y a 3 points qui ne figurent pas dans le traité. La fermeture des frontières ne figure pas dans le traité. L'appel des ambassades ne figure pas. Hein? Ça ne figure pas. Alors, d'où est-ce que cette... Et quoi encore? En tout cas, 3 que j'ai énumérés.
D'accord.
Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que ceux qui ont travaillé sur le protocole ont fait appel à la société civile ouest-africaine pour participer à l'élaboration de l'avant-projet.
D'accord.
À Lagos aussi bien. Ça veut dire que nous connaissons bien cela, et c'est pour ça que certains d'entre nous sont très critiques vis-à-vis des chefs d'État actuels et même certains fonctionnaires qui travaillent au niveau de la CEDEAO. Quand vous leur posez la question, ils vous disent « Nous ne comprenons pas les hommes politiques de la CEDEAO aujourd'hui ».
D'accord, d'accord. On est d'accord avec vous, comme l'a dit Boukoum, la CEDEAO, on doit revoir la CEDEAO, en tout cas un changement radical au niveau de cette organisation. Mais Boubacar Boukoum, aujourd'hui, la CEDEAO, en tout cas quand même, elle défend des principes, même si vous estimez que ces principes sont aujourd'hui quelque peu caduques. Mais est-ce qu'on peut trouver une autre alternative à ça? Est-ce que les États, État...
Bien entendu, on peut trouver d'autres alternatives.
Comme
la CEDEAO n'est pas dans les principes, parce que le principe d'abord de ne pas faire 3 mandats, Ouattara a fait son 3e mandat. Il n'y a pas eu de souci. Cette même communauté internationale qui condamne le Mali a vu le Tchad imposer un putschiste au pouvoir. Il n'y a pas de souci. En Guinée, il n'y a pas de souci. Au Mali, il y a un souci. Donc, en réalité, il faut qu'on comprenne.
Alors,
c'est pourquoi...
La Guinée est sous sanction. Le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO.
Il ne s'agit pas de faire partie de la CEDEAO ou non. L'Union africaine n'a pas sanctionné le Mali. Est-ce que l'Union, dans le principe de la subsidiarité, n'a pas sanctionné le Mali? Alors, il ne s'agit pas de la CEDEAO. Comprenons comment fonctionnent les institutions internationales, le système des Nations Unies et tous ces baratins, cette grosse machine. Je veux juste dire que aujourd'hui... L'alternative qu'on peut trouver, c'est le Mali qui va dessiner cette nouvelle carte économique, géographique, géopolitique et géostratégique de l'Afrique. Ça veut dire que très rapidement aujourd'hui, le Mali pourrait très rapidement quitter la CEDEAO, quitter l'UMOA et quitter le franc CFA et amorcer un nouveau processus de l'Union africaine, parce que nous sommes le pays qui a acté dans sa constitution que nous sommes prêts à céder une partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine.
Et le Burkina doit faire le même.
Mais bien sûr, ils vont se rallier au Mali, parce que quand nous créons la monnaie unique africaine, c'est pour que l'ensemble du continent africain arrive.
Cela est bien compris, et c'est sur ce que prend fin ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui des événements qui se déroulent au Burkina Faso. On parle d'arrestation du président Roch Marc Christian Kabore, mais cela reste encore à confirmer. Et c'est sur ce sujet que nous avons décidé de faire une émission aujourd'hui sur pourquoi les coups d'État continuent en Afrique de l'Ouest. Pour en parler, nos invités étaient Boubacar Boukoum, analyste politique, Dr Konaté Mariam Sidibé, elle est également enseignante-chercheur, et Fatoumata Sidibé, spécialiste des questions de paix et sécurité. Sekou Gadjigo a modéré ce grand dialogue. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. C'était à la régie vidéo Salim Diouara, mise en onde assurée par Adjiratou Traoré. À demain pour un autre numéro.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dumondi.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.